de l'histoire, Xavier Mauduit.
Dominé jusqu'à la mort du crime dit passionnel au féminicide. En 1901, Raoul de la Grasserie, qui se présente comme jurisconsulte, propose des principes sociologiques de la criminologie. Il explique que lorsqu'il se produit beaucoup de crimes passionnels, ils semblent trouver leur justification précisément dans leur grand nombre. L'audition et la lecture des débats, l'acquittement, produit sur le public une grande impression. L'exemplarité agit, mais dans un sens inverse de l'ordinaire. Elle entraîne le crime. Rien ne va dans ce texte, les crimes passionnels, et l'idée surtout qu'il ne faudrait pas en parler. Attention, attention, depuis les contes de fées, nous savons combien tout cela est dangereux.
Pose ta galette et le petit pot de beurre sur la table et viens te coucher près de moi.
Me coucher, ma grand? Mais je n'ai pas sommeil. Et je ne suis pas malade.
Allons, mon enfant, cesse de me contrarier. Viens vite.
Bonjour Christelle Tarot.
Bonjour.
C'est une histoire très longue, celle des féminicides. Féminicide, d'ailleurs, ce mot, d'où vient-il?
Alors, le féminicide, ça vient en fait du Mexique et du massacre de masse de Ciudad Juárez au début des années 90, lorsque on va à la suite de demandes répétées des familles qui s'inquiètent de voir beaucoup de filles disparaître sans que, en particulier, la police ne fasse grand-chose pour les retrouver et qui vont commencer à investiguer et à trouver effectivement des cadavres à Ciudad Juárez, qui est malheureusement connue aujourd'hui comme la ville où on tue les femmes, mais sur l'ensemble de la zone en fait frontalière avec les États-Unis, entre les États-Unis et le Mexique, où se trouvent beaucoup d'usines de sous-traitance, où des jeunes filles travaillent dans des conditions très difficiles. Et puis on est aussi dans le contexte de la guerre contre la drogue, de la guerre contre le terrorisme, donc une zone extrêmement problématique de notre monde commun. Et donc des cadavres de femmes apparaissent, sont tués, surtués. Le surmeurtre, c'est très important dans la définition du féminicide, parce que ça veut dire qu'on ne se contente pas de tuer quelqu'un, qu'on ne se contente pas de tuer un corps physique, mais on va le surtuer encore et encore au travers de violences sexuelles, de mutilations, de démembrements, de profanations. Et lorsque on atteint un niveau inouï de violence, puisque ce ne sont plus des dizaines, des centaines, mais des milliers de jeunes filles qu'on retrouve mortes dans ces conditions, on invente un nouveau concept, en l'occurrence Marcela Lagarde de los Ríos, qui est une très grande chercheuse et femme politique mexicaine, pour dire cette réalité inouïe, et ce sera le féminicide. Donc crime collectif, crime de masse, crime d'État, et crimes à tendance génocidaire. C'est quelque chose de très particulier, le féminicide. Ça n'a rien à voir avec nos fémicides intimes et individuels, même si les deux mots se sont confondus.
Nous sommes dans un contexte précis, hein, le Mexique, ces années fin 20e siècle, quoi, on va dire, placé dans un autre contexte, par exemple au 19e siècle. Est-ce que ça aurait un sens? Féminicide, on parle de cela aux gens du 19e siècle, ils pouvaient comprendre ce que ça voulait dire?
Ah non, ils n'utilisent pas ce mot-là, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Bien sûr, les mots seront contextualisés. Au 19e siècle, il me semble qu'on va plutôt, par exemple, lorsqu'on parle de cette réalité, en particulier dans les procès, plutôt utiliser le terme de conjugicide. Si on remonte, non, peut-être pas, uxoricide non plus. Mais il me semble quand même qu'au 19e siècle, on emploie le terme de conjugicide.
Alors, le terme de conjugicide est apparu en 1801 au moment de la discussion du code pénal.
Donc 19e siècle.
Au tout début du 19e siècle. Et on voulait créer un autre uxoricide qui avait été créé, emprunté par le droit, créé par le droit canon et emprunté par l'ancien droit, qui voulait dire « je tue l'épouse ». Il se trouve que, au moment de la codification, évidemment, on voulait se défaire évidemment de tout ce qui appartenait à l'ancien régime, et donc apparaît comme une circonstance aggravante de tous les crimes le conjugicide, au même titre que le parricide et que l'infanticide. Quand on regarde un petit peu les discussions qui ont eu lieu auprès des magistrats à l'époque, aucun magistrat n'a vraiment finalement réfléchi à cette terminologie. Tout ce qu'on sait, c'est que en 1810, dans le code, la notion disparaît, contrairement au parricide et à l'infanticide. Ce que l'on peut penser, c'est qu'au même moment où on discutait de la rédaction du code civil, on introduisait le divorce pour excès, sévices et injures graves. Et ils se sont dit, puisqu'on prévoit ce juste motif de séparation de corps et de divorce, les époux qui se disputeraient pourraient toujours divorcer, puisque de toute façon, c'est le couple, c'est la famille, ça relève du civil, pas du pénal. Et puis surtout, dans le code pénal de 1810, est introduit l'excuse du mari qui tue l'épouse prise en flagrant délit d'adultère, et on ne pouvait pas contenir dans le code ce crime-là et le conjugicide, c'est-à-dire une circonstance aggravante d'un côté et une circonstance atténuante de l'autre. Donc du coup, la notion a disparu. Mais en revanche, ce qui est resté, c'est l'idée que bah, finalement, la force ne peut pas être laissée comme ça au sein des couples, et il n'y a pas de faiblesse qui ne puisse être protégée contre la tyrannie domestique. Et c'est avec un petit peu cette phrase-là, ce leitmotiv-là, que les magistrats, notamment du pénal, eh bien, vont s'immiscer progressivement dans les couples. Et effectivement, il n'y a pas de conjugicide, comme il n'y a pas de violence conjugale, comme il n'y a pas de féminicide. Il y a tout simplement des meurtres, des assassinats, des coups et blessures. En fait, toute la taxinomie, toutes les terminologies du code pénal, des droits du droit commun, tout simplement. Parce que, et ça sera en 1825, la décision de la Cour de cassation décisive, peu importe la qualité de la victime, ce qui importe, c'est qu'il y a eu des coups, des meurtres, enfin des homicides de commis à l'intérieur du couple. Et ça, c'est ce qui importe le plus.
C'est pourquoi il nous fallait une juriste. Vous êtes là, Victoria Vanon, juriste, historienne du droit des institutions. Dans cette réflexion, La paix des ménages, histoire des violences conjugales, 19e, 21e siècle, c'est l'ouvrage que vous avez publié chez Anna Moza. Il y a tout un aspect juridique. En fait, c'est une histoire de regard, bien sûr. Où l'on se place, il y a le regard du juge, mais là encore, quand il est question de juge, le système judiciaire, c'est pas monolithique. Il y a les assises, il y a les correctionnels. C'est pas du tout le même regard, là aussi.
Ah non, c'est pas le même regard. J'évoquais justement le côté civil et le côté pénal. Pendant très longtemps, les criminalistes ne se sentaient pas compétents pour intervenir dans les couples. Je le disais tout à l'heure, c'est du civil, le couple c'est le mariage, on renvoie tout ça au code civil. Or, pour les pénalistes, les plus humanistes, certes, il y a des violences, mais derrière les violences, c'est quand même des causes et blessures. Il n'est pas possible de laisser impuni un mari qui aurait commis des violences à l'égard de sa femme. Donc, très rapidement, finalement, eh bien, les magistrats vont essayer de trouver, de justifier leur intervention sur un plan pénal. Donc, ils vont partir du fait que ça constitue un trouble à l'ordre public. Évidemment, les violences, ça fait du bruit quand le couple se dispute, ça gêne les voisins. Donc c'est par ce biais-là que finalement la justice pénale s'est sentie compétente pour intervenir dedans, dans ces couples-là. Mais c'est pas suffisant, parce que finalement, l'incrimination c'est tapage nocturne, c'est pas coups et blessures. Et puis arrive cet arrêt de 1825, l'arrêt Boisbeuf, cour de cassation. Le sieur Boisbeuf est accusé d'avoir violenté sa femme. La femme porte plainte, ça arrive en correctionnel, et puis les juges se déclarent incompétents. Non, on renvoie tout ce monde-là au civil. La femme fait appel, la cour d'appel dit non, c'est bon, vous pouvez y aller, on reconnaît. À nouveau, ça revient devant la correctionnelle, non, ce n'est pas possible, nous ne sommes pas compétents. Et là, l'avocat général Moore décide d'intervenir et il estime qu'au contraire, la justice pénale doit intervenir parce que sinon on est devant un déni de justice. On ne peut pas laisser comme ça un individu impuni pour les crimes qu'il a commis. Et c'est pour ça que finalement, eh bien, on a reconnu l'application entre époux des articles du code pénal. Ça, c'est pour les simples violences. Mais en 1839, on va passer quand même un cap supplémentaire puisqu'on va reconnaître l'attentat à la pudeur entre époux. Ce n'est pas le viol, puisqu'on se marie pour avoir des relations sexuelles. Mais en revanche, à travers l'attentat à la pudeur, c'était un moyen, en tout cas, de punir le mari, qui était un petit peu trop exigeant à l'égard de sa femme, des attentes, en tout cas, sexuelles. Et là, c'est l'arrêt de 1839 de la Cour de cassation, l'affaire Giguet, où on a deux personnalités assez intéressantes, puisqu'on a Dupin, l'avocat général, qui est plutôt conservateur, et qu'on n'attendrait pas là-dessus, et qui va dire, bah oui, la justice peut être au pied du lit. Et puis l'avocat du mari, c'est le Dreux Rollin. Le Dreux Rollin, qu'on aurait pu penser un petit peu plus républicain, un peu plus avant-gardiste, bah non, lui, il ne veut pas que la justice soit au pied du lit. Et ça, ce sont deux grandes décisions, finalement, qui vont marquer l'histoire de la justice en matière de reconnaissance des violences conjugales au XIXe siècle.
Il y a le temps de la justice, le temps de la décision, alors le code civil, le code pénal, l'arrêt Boisbeuf, et puis après il y a un autre temps, c'est le temps des mentalités, le temps des représentations, Christelle Tarot. Alors là, ça ne suit pas le même mouvement, il y a un lien évident entre les deux, mais pour les représentations, c'est beaucoup plus complexe pour les femmes.
Absolument, et surtout, évidemment, il est évident pour un certain nombre de groupes, en particulier les chercheuses et les militantes, bien plus tard, qu'il ne s'agit pas du tout d'un crime privé, bien évidemment, qu'il s'agit d'un crime sexuellement politique, comme le théorise, par exemple, une grande chercheuse féministe aux États-Unis dans les années 70, Jane Caputi, qui va justement prendre des affaires très célèbres à l'époque de violences domestiques, de coercition psychologique, de brutalité, et qui explique que, d'un point de vue féministe, par exemple, ces crimes sont parfaitement lisibles, puisqu'elle dit justement qu'il s'agit de crimes sexuellement politiques et que, puisque c'est politique, bien sûr que le privé peut être politique, c'est évident, et que donc il faut avoir une approche tout à fait différente et que précisément l'approche juriste ne peut pas être la seule manière de dire ces crimes. Et donc on entre là dans une nouvelle histoire, si j'ose dire, qui consiste à inventer effectivement un certain nombre de concepts pour dire la spécificité de ce crime, qui jusque-là, c'est d'ailleurs comme ça qu'est né le concept de fémicide, inventé dans une conversation collective très intéressante en 1976 à Bruxelles, au premier tribunal international contre les crimes faits aux femmes, par une chercheuse, là aussi absolument stimulante, Diana Russell, qui dit « on ne peut pas laisser les violences faites aux femmes et les meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes dans la catégorie d'homicide, parce qu'elles sont spécifiques, ces violences, et que tant que le crime n'est pas nommé de manière extrêmement claire, il n'existe pas. » Et donc, c'est pour ça, en fait, que à la fin des années 70 et au début des années 80, on va forger ce concept de fémicide. Ce que nous appelons, nous, en France, aujourd'hui, le fémicide étant globalement l'assassinat d'une femme parce qu'elle est une femme, par un partenaire intime en général, parce que dans cette mouvance qui est en train d'inventer ce concept, on travaille pas seulement justement sur les crimes individuels, mais on travaille aussi, par exemple, sur les serial killers. On travaille sur les premiers massacres de masse, puisque en même temps se produisent un certain nombre d'attentats masculinistes, comme celui, par exemple, de Montréal, le 6 décembre 89, hein, où 14 jeunes filles de l'école polytechnique de Montréal sont exécutées par un militant masculiniste parce qu'elles sont des femmes. Voilà, donc on a cette conversation très riche, qui se poursuit en fait de la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui et qui va permettre d'inventer un certain nombre d'outils pour comprendre en fait ce phénomène sociétal extrêmement puissant et pérenne, le fémicide, le féminicide et aujourd'hui le continuum féminicidaire.
Féminicide, avec un S bien sûr, une histoire mondiale, c'est l'ouvrage que vous dirigez, Christelle Tarot, publié à La Découverte. La première partie s'intitule « Chasse aux sorcières ».
Vous avouez avoir eu des rapports avec le diable dès votre jeune âge.
J'ai pas dit que c'était le diable. J'ai dit un grand homme habillé de noir, c'était peut-être un soldat.
Ne jouez pas sur les mots. Vous sortiez la nuit dans la campagne, il y avait des festins.
Oui.
Surtout en période de famine.
Comment le savez-vous?
Je sais beaucoup de choses, Jeanne. Et au sabbat, il se passait des choses atroces. Des sacrifices humains. Et dans un but sacrilège. Après les avoir avoués au diable. On me dit que vous avez avoué, librement avoué. J'en suis heureux. Heureux pour vous. Vous pouvez compter dans toute la mesure du possible sur mon indulgence. Vous avez avoué devant témoins, vous serez brûlé. Il se peut toutefois qu'on vous accorde l'étranglement préalable. Maintenant, avançons, mon temps est précieux.
Jeannot la révolte, c'est l'adaptation sur l'ORTF en 1974 du récit de Françoise Malé-Joris de 1968. Il y a, avec les sorcières, évidemment, là, une situation très particulière, c'est le tarot, parce que nous ne sommes pas dans le couple, nous ne sommes pas dans le privé. D'un seul coup, ici, et c'est en cela que c'est très intéressant dans l'histoire, un moment public où il y a une stigmatisation des femmes.
Alors, c'est plus que ça, à mon sens. Pour le coup, la définition qui a été forgée à Ciudad Juárez bien plus tard, évidemment, elle s'applique complètement aux chasses aux sorcières du XVIIe siècle, essentiellement, hein, fin XVIe, et puis dans ce long XVIIe siècle pour les femmes, incontestablement. Pourquoi est-ce que c'est un crime similaire ? Parce que, si on reprend la définition que j'ai explicitée tout à l'heure, c'est un crime collectif, puisque l'ensemble de la société participe. C'est un crime de masse, puisque les chiffres sont effarants, même si les historiennes et les historiens ne sont pas totalement d'accord sur les chiffres. Mais enfin, on convient qu'il y a plusieurs centaines de milliers de mortes. Donc, c'est quand même de femmes qui sont exécutées. Donc, c'est un crime de masse. C'est un crime d'État, puisque toutes les institutions de l'État, qu'elles soient civiles ou qu'elles soient religieuses, participent en fait, puisqu'on sait que les procès sont en même temps des procès menés par l'Inquisition, que la justice civile et l'ensemble des structures civiles participent largement. Donc c'est un crime d'État et c'est un crime à tendance génocidaire, dans le sens où, bien sûr, on n'emploie pas ce terme à l'époque. Et d'ailleurs, Armelle Lebras-Chopard, qui fait un formidable article dans le livre, n'emploie pas ce terme, elle emploie le terme de génocide. Mais en l'occurrence, de manière substantielle, il n'y a pas d'énorme différence. Donc là, en fait, on est confronté effectivement à un événement majeur. C'est donc un féminicide de masse. Du point de vue de l'histoire européenne, c'est extrêmement important, puisqu'il s'agit en réalité de faire une chose très simple, c'est de pacifier les relations, quand je dis pacifier, évidemment, c'est pacifier dans le sang, les relations entre les femmes et les hommes dans les sociétés européennes de l'époque moderne, sachant évidemment que tout ça a été préparé, évidemment, d'un point de vue idéologique, par les travaux, y compris chez les savants les plus progressistes de l'humanisme précédent, comme par exemple Boccace, qui rappelle dans un texte très célèbre que les femmes sont les animaux les plus sales possible, plus sale que les porcs. Et en fait, on retrouve une préparation psychologique qui va trouver finalement une caisse de résonance formidable avec ce célèbre Marteau des sorcières, qui est l'ouvrage qui constitue l'architecture idéologique des chasses aux sorcières et qui est probablement l'ouvrage le plus misogyne jamais écrit dans toute l'histoire de l'humanité et qui s'articule autour d'une haine des femmes qui est juste invraisemblable. Et les chasses aux sorcières, en fait, c'est une manière de trier les femmes européennes de cette époque en deux catégories. La catégorie de femmes qui n'est pas adaptable à cette nouvelle masculinité hégémonique qui est en train d'être repensée depuis la fin du XIVe siècle et qui trouve un moment vraiment d'acmé précisément pendant les chasses aux sorcières, et celles qui vont être possiblement réadaptées. Et donc il faut voir que les chasses aux sorcières, c'est un régime de terreur qui s'abat sur les femmes en Europe et qui vont évidemment conduire à une domestication des survivantes. Ça va fonctionner fort bien et pour cause, l'effroi est épouvantable. Évidemment, ensuite, début du XVIIIe siècle, on n'a plus besoin de les brûler parce que ça y est, tout a été incorporé. Et le parachèvement de cette œuvre, évidemment, c'est les systèmes juridiques qui vont légalement imposer l'assujettissement des femmes. On pourra peut-être sans doute parler du code civil ensemble.
Le marteau des sorcières, c'est la fin du XVe siècle. Christelle Tarot, vous avez raison de rappeler que la période des chasses aux sorcières, c'est plutôt le XVIIe siècle. C'est pas du tout.
Absolument
pas. C'est pas médiéval.
Non, mais parce que ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut, justement travailler les mentalités. Cette haine des femmes, elle n'est pas spontanée. Donc on travaille les mentalités de manière extrêmement puissante. Et à un moment, évidemment, tout ça arrive à un point d'acmé. Le point d'acmé de cette haine des femmes qui a été préparée depuis au moins un siècle avant, et peut-être même un peu plus, ce seront effectivement ces grandes chasses aux sorcières.
Victoria Vano, 19e, 21e siècle, c'est la période sur laquelle vous étudiez l'histoire des violences conjugales. Vous êtes héritière dans cette étude-là, pas vous directement, mais tous ces hommes, ces juges, parce que c'est un monde très masculin, sont héritiers en fait de cette très longue histoire. Au moment de juger une femme, est-ce qu'ils ont déjà ces a priori en tête ? Est-ce qu'une femme peut être jugée comme un homme ?
Alors oui, il faut savoir que le 19e siècle est traversé quand même par deux cultures. On a tout le savoir juridique qui essaie de se mettre en place et puis on a toute la culture populaire qu'évoquait Christa tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a un énorme hiatus entre les comportements des individus et ce en quoi finalement croient les magistrats. Et surtout le 19e siècle, c'est un siècle qui se perçoit un petit peu plus comme moderne dans ses rapports entre les individus, notamment les rapports hommes-femmes. Et ils ont du mal, on va dire, à justifier le fait que l'on puisse, dans le code civil, l'article 213, dire que la femme doit obéissance à son mari et le mari doit protection à sa femme, article duquel malheureusement certains travaux en ont déduit qu'il s'agissait du droit de correction, mais en fait pas du tout. Mais en tout cas, c'est ça qui commandait en tout cas les rapports entre époux, c'est-à-dire que la femme, elle est obligée donc de respecter son mari et surtout de cohabiter avec lui. Donc ça, c'était des rapports très difficiles. Et puis c'est surtout que les magistrats été confronté à des situations assez complexes entre les époux et les concubins. C'est-à-dire que la femme mariée n'avait pas tellement de droits, elle n'avait pas de droit d'aller et venir, elle ne pouvait pas travailler sans autorisation de son mari, elle ne pouvait pas percevoir une rémunération sans que son mari récupère cet argent, alors que la femme concubine, oui, elle était libre. Et c'est face finalement à ces deux situations-là que les magistrats ont finalement essayé de reconnaître en tout cas un droit commun et faire en sorte que ce qui est applicable pour la concubine qui est maltraitée par son concubin soit applicable par l'épouse. Et c'est ça qui est assez moderne. Mais c'est vrai que dans les rapports sociaux, c'est très difficile puisque les adages, finalement, on l'a dans dur. Qui veut battre sa femme trouve assez de raisons, dit l'adage. Ou plus on, les femmes, c'est comme des côtelettes, plus on les bat, plus elles sont tendres. C'est ça, finalement, qui un peu rythme les rapports des hommes et des femmes. Et puis surtout, vous évoquiez donc la chasse aux sorcières. Mais c'est vrai que c'est une société qui a encore ces images-là de femmes insoumises aussi qui étaient dessinées au XVIIe siècle. On avait quand même le docteur Tricotin à l'époque qui avait inventé la racine de Orla pour battre et corriger sa femme. Et puis on avait aussi cette image du fameux Lutucru qui était un benêt et qui en avait marre que sa femme ne fasse rien chez lui et qui avait inventé une machine pour essayer de démembrer cette femme pour la reconstruire dans le bon sens et qu'elle lui donne le respect, lui fasse à manger, etc. Donc toute cette culture-là populaire est encore très 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 présente et c'est à ça finalement que les magistrats sont confrontés. Et quand on regarde un peu les dossiers de procédure et qu'on lit les interrogatoires et que les magistrats sont confrontés finalement à des hommes qui disent « Oui, mais quand on est un mari, on doit corriger sa femme, une femme ne doit pas faire ça », ils sont très gênés en fait. Parce que pour eux, ils sont heurtés. Ce sont quand même évidemment des hommes, mais des bourgeois. Et dans leur rapport avec leur épouse, c'est pas comme ça. Donc du coup, ça va être très difficile et tout au long du 19e siècle, ils vont devoir justifier, notamment à chaque fois, pour ce qui concerne les pénalistes, leur légitimité à intervenir, parce que c'est heurtant en fait pour eux. Et là où il y a un document qui est assez significatif quand on regarde les archives judiciaires pour le 19e siècle, c'est le fameux acte d'accusation qui est lu au début de l'ouverture de la cour d'assises. Eh bien, c'est un document qui normalement doit faire preuve d'impartialité. Eh bien, en matière de violence conjugale, il n'y a que la partialité. Mais la partialité à l'égard du mari qui s'est rendu coupable du meurtre, ou de tentative de meurtre à l'encontre de sa femme. Et puis, on va dire, évidemment, du désarroi face à la victime qui a vécu pendant toutes ces années des souffrances, des violences, parce que c'est habituellement, continuellement, qu'elle a subi ses coups jusqu'au coup fatal.
Oui, le coup fatal, c'est celui-là qui interpelle les magistrats parce que eux, ils sont en bout de chaîne. Parce que Christelle Tarot, féminicide, en fait, cette violence est omniprésente dans la société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier les féminicides uniquement en s'asseyant dans une salle de tribunal.
Absolument, et même très honnêtement, je crois que les juges peuvent être aussi touchés par cette violence. Parce que vous disiez tout à l'heure que, étant des hommes bourgeois, avec leurs épouses, ils ne rencontraient pas ce type de choses. Mais en réalité, si. Parce que ce que montre l'étude sur le long terme et sur 5 continents du féminicide, c'est que globalement, bien sûr, il y a des contre-exemples, mais que ça traverse, en fait, cette question des violences faites aux femmes, ça traverse toutes les sociétés, toutes les classes sociales, ça traverse toutes les couleurs de peau, ça traverse toutes les confessions religieuses et même tous les âges, puisqu'on observe, y compris chez des très jeunes couples, de la violence féminicidaire, encore aujourd'hui et dans le passé aussi, évidemment. Donc c'est un crime total. Moi, j'ai forgé ce concept de continuum féminicidaire pour dire précisément cela, pour dire que finalement les violences faites aux femmes doivent être pensées dans une dynamique et que évidemment le meurtre ou l'assassinat, puisque dans notre droit, nous avons meurtre et assassinat, ce qui n'est pas le cas partout, le meurtre ou l'assassinat n'est finalement que la partie la plus visible de l'iceberg féminicidaire, et que pour comprendre les meurtriers, on doit en fait remonter toute une chaîne de violences qui sont souvent évidemment non connectées les unes par rapport aux autres, et y compris par les femmes elles-mêmes qui vont cloisonner en fait les épisodes violents et pas forcément les relier ensemble. Donc si la femme elle-même ne les relie pas ensemble, effectivement, lorsque un juge s'en empare ou un juré, évidemment, ces connexions ne se font pas non plus de manière évidente. Mais c'est, je crois, très important de comprendre que le continuum féminicidaire, ça peut aller des violences les plus physiques aux plus psychologiques, des plus brutalement évidentes, comme le meurtre ou l'assassinat, au plus symbolique. Et bien sûr, une grande partie de ces violences sont incorporées, y compris par les femmes.
Parce que c'est ça qui est très dur à saisir dans cette histoire-là. C'est qu'il faut prendre l'ensemble de la société pour approcher un peu cette idée de féminicide. Vous dites, Christelle Tarot, que ces violences-là sont même acceptées par les femmes, mais tellement elles-mêmes sont partie prenante de la société. Donc elles sont obligées d'intégrer, mais ne serait-ce que pour survivre.
Absolument, et ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur les grandes chasses aux sorcières. C'est que lorsque les femmes survivantes ont été, entre guillemets, dressées aux nouvelles règles de la masculinité hégémonique telle qu'elle s'est redéfinie à l'époque moderne, eh bien, elles l'ont fait dans une nécessité de survie immédiate, puisque rappelons quand même que le fait d'être définie comme une sorcière, et je signale que les sorcières n'existent pas, c'est une construction misogyne, ça n'existe pas les sorcières, il existe des femmes savantes, il existe des femmes puissantes, il existe des femmes possédantes, mais des sorcières ça n'existe pas. Donc il s'agit bien de créer une catégorie qui va être une catégorie stigmatisante, et cette catégorie stigmatisante, elle conduit à la mort systématiquement. Vous l'avez rappelé dans l'archive, il dit on va faire preuve entre guillemets de gentillesse avec vous, on vous étranglera avant de vous brûler. C'est ça, en fait, et sans parler du fait que les sorcières sont, entre guillemets, les sorcières, entre guillemets, sont systématiquement torturées, questionnées, comme on dit. Donc, il y a vraiment ces dispositifs de survie qui se mettent en place et, oserais-je dire, la soumission réelle ou simulée plus ou moins, c'est un dispositif de survie pour de nombreuses femmes. Et on le voit d'ailleurs encore dans les affaires de féminicide aujourd'hui. Donc, il y a une continuité, mais ça pose aussi la question, bien sûr, du consentement. Enfin, ça pose toute une série de questions, évidemment, par rapport à qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette, entre guillemets, soumission des femmes dans des régimes qui sont des régimes de terreur individuelle ou collective.
Est-ce que les magistrats se posent cette question, Victoria Vano? Nous savons comment ça se passe lors d'un procès. Il y a l'enquête, alors on retrace le passé, ce qui permettrait d'expliquer on en est arrivé là, mais pourquoi? Et est-ce que les magistrats prennent en compte tout cela, parce que c'est dur de savoir où commence la violence symbolique.
Exactement, ça a été très difficile. Les formes de résignation, effectivement, elles existent au XIXe siècle et les magistrats y sont confrontés très tôt, puisque d'une part, l'épouse ne peut pas témoigner contre son mari. Ça, c'est prévu dans le code de procédure. Donc, ça a été très difficile pour eux, pour les magistrats. Ils ont réussi à contourner, donc à faire prêter quand même serment au moment de l'instruction les femmes. Et donc, du coup, finalement, leur témoignage était pris en considération. Mais surtout, les femmes écrivaient souvent aux magistrats pour arrêter la procédure. Il l'a pas fait exprès. Il m'a écrit une lettre, il a dit qu'il s'excusait, et puis en plus en même temps c'est de ma faute, etc. Cette forme de résignation et cette, finalement c'est presque un conflit de légitimité quelque part, en se disant bah oui je fais mal, c'est des formes d'éducation. On a habitué la femme à être cette petite chose qui doit respect à l'homme, qui ne peut rien faire sans l'homme, et quelque part finalement bah quand elle arrive dans une situation où elle est victime, eh bien qu'est-ce qu'elle fait? C'est un mode de défense. Et elle dit, bah non, je préfère arrêter là. Et puis, de toute façon, j'ai besoin de lui, il m'aime, etc. Et les magistrats se disent, mais non, de toute façon, puisque la procédure est engagée, voilà, il y a atteinte à l'ordre public, puisqu'il y a atteinte à l'intégrité physique d'un corps. Et donc, de toute façon, on supplée la victime dans ces considérations-là. Mais c'est clair que le fait que la victime écrive un courrier, fasse preuve, en tout cas, de mansuétude à l'écart de son bourreau, bah, ça va jouer au moment du procès. Et notamment aux assises. Puisque aux assises, on est devant un jury populaire, jury masculin, et évidemment, bah, on va se dire, bon, bah oui, effectivement, si elle reconnaît ses fautes, bon, bah voilà. Donc, souvent, on va avoir des reconnaissances de culpabilité, mais avec des circonstances atténuantes, voire des acquittements. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est quand ça passe en correctionnel. C'est-à-dire que quand, là, finalement, l'accusé est mis devant des juges professionnels, et là, les juges professionnels vont marquer un petit peu la distance. C'est vrai que ce qu'ils vont repérer, c'est ce processus, ce continuum, hein, ce continuum-là des violences. Et ça va même intervenir dans les formes d'incrimination, puisque certains magistrats arriveront à reconnaître des incriminations depuis moins de 3 ans. Alors 3 ans, c'est le délai évidemment de prescription, mais ça montrait en tout cas toute la puissance et toute l'état délétère dans lequel le couple vivait, et la femme était victime en tout cas de son mari. Donc du coup, voilà, ils essayaient de jouer, bon, mais évidemment, soit qu'ils tenaient aussi compte des courriers, des pleurs, parce que les femmes en pleurs, finalement ces pleurs-là, ces cris-là sont consignés dans les procès-verbaux de déposition, bah, pèsent évidemment sur le verdict final. Parce que c'est un acte aussi de mettre quelqu'un en prison, et l'emprisonnement à l'époque, voilà, ça voulait dire quelque chose. Donc ils étaient comme ça, un petit peu en balance. Et puis surtout, on est dans le cadre de la vie privée du couple. Et encore une fois, la justice criminelle, elle n'est pas aussi autorisée que ça à rentrer au sein de cette conjugalité-là.
Oui, c'est ça qui est important de le rappeler toujours. Hein. Où commence l'espace public, l'espace privé? Et puis, que dire dans l'espace privé avec ce continuum de violence? Continuum chanté par Anne Sylvestre.
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessein, quoi, il est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure. Petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure. Petit voisin, petit professeur, main baladeuse. Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite, qu'est-ce qu'elle a, cette hypocrite? Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier. Juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade. Petite plaisanterie de salon, petite rigolade. fermé les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance. Et trembler qu'une fois de plus, il recommence. Inconvenance. Quoi, si on peut plus plaisanter, on n'a plus qu'à se la faire couper. Non, c'est vrai, il n'est pas un monstre, et c'est l'épouse qui prend la honte. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Anne Sylvestre, juste une femme, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui la technique Marie-Claire Oumabadi. Du crime dit passionnel jusqu'au féminicide. Christelle Tarot, votre ouvrage Féminicide, une histoire mondiale que vous publiez à la Découverte. Combien d'auteurs, d'autrices? Il y a du monde. Hein.
120 à peu près.
C'est impressionnant. De la première partie, La chasse aux sorcières, à la septième partie, Tuer les filles, les domestiquées et les marchandisées. C'est juste une femme. D'Anne Sylvestre, c'est une prise de parole. Cette histoire-là aussi est l'histoire de la confiscation de la parole féminine. C'est-à-dire invisibiliser les femmes. C'est juste une femme. En fait, ça traverse les parties de votre ouvrage et ça traverse notre histoire.
Absolument. Je suis très heureuse que vous ayez passé cette chanson d'abord, parce qu'évidemment, j'aime beaucoup l'autrice. Et puis parce que je pense qu'effectivement, ce qu'elle exemplifie est très profondément... éclaire très profondément ce système d'écrasement des femmes, précisément, que j'ai voulu exemplifier à travers les contributions de ce livre. Oui, la parole est essentielle, mais il faut comprendre en fait que ce qui se met en place, c'est deux choses simultanément. C'est d'abord la destruction programmée, et les chasses aux sorcières en sont un exemple très pertinent, des sororités entre femmes. À l'époque médiévale, par exemple, il y avait beaucoup de sororités entre femmes, de divers statuts et de formes très différentes. Ces sororités étaient des lieux de partage, d'échange, de discussion, d'entraide. Et ça faisait que les femmes se soutenaient les unes avec les autres. Tout ce qui s'est passé ensuite a pour but, en fait, de diviser les femmes entre elles, d'abord, de les inféoder aux hommes, c'est-à-dire que les femmes ne trouvent plus comme expression de leur ego, de leur moi, si je puis dire, que dans la protection des hommes qui leur sont apparentés. Et donc, ça explique aussi les excuses nombreuses vis-à-vis de leurs conjoints, bien sûr la protection des fils en particulier, évidemment. Et puis, l'autre grand volet, c'est la silenciation individuelle et la silenciation collective, puisque le 19e siècle, c'est aussi le début de la néantisation totale des femmes dans l'histoire de leur propre pays et dans l'histoire de l'humanité. Et tout ça, c'est pourquoi le continuum féminicidaire est si important, tout ça est connecté en réalité. Donc la silenciation individuelle et collective, c'est un élément fondamental du système d'écrasement qui lui-même est constitutif de la violence faite aux femmes. Et cette silenciation, elle appelle des prises de parole extrêmement diversifiées, évidemment, comme celles que nous venons d'entendre, qui ont été essentielles à plusieurs moments clés de l'histoire pour réintroduire, en fait, ce qu'était la réalité très quotidienne de la vie de très nombreuses femmes, ici, bien sûr, dans notre pays et de par le monde.
Vous l'avez dit, Victoria Vano, le moment de prise de parole au tribunal, il est très compliqué parce que, en fait, les femmes qui sont là au tribunal sont écrasées par le poids de la société. Peut-on dire que le système judiciaire, alors dans le cas de la France particulier, est sensible malgré tout à cette idée de genre? Il y a, pour les sorcières, un groupe les sorcières, un groupe fantasmé. Mais on sait bien qu'au 19e siècle, la société est vue. Alors, il y a des femmes de mauvaise vie, il y a toute cette lecture-là aussi. Les magistrats ont ça en compte?
Oui, ça va rentrer en ligne de compte aussi pour trouver des circonstances aggravantes à l'égard du mari quand la femme va mal se comporter. Une femme qui tient mal sa maison, qui ne fournit pas le boire et le manger à son mari, c'est une mauvaise femme. Une femme qui bat son mari, c'est une mauvaise femme. Alors évidemment, le mari battu aussi, mais voilà, il y a des comportements à tenir, il y a des règles à tenir, et c'est ça aussi qui pèse aussi sur les décisions des magistrats. Alors ils vont essayer d'aller à l'encontre, parce que eux, ce qu'ils retiennent, évidemment, c'est le trouble à l'ordre public, l'atteinte au corps physique, mais n'empêche que c'est ça qui va peser sur, les circonstances atténuantes du coupable. Les magistrats vont être aussi devant un problème aussi très concret, c'est que d'un point de vue politique, les femmes ont du mal aussi à trouver leur place. Et ça va évidemment entrer en ligne de compte entre j'agis ou j'agis pas. Il y a une décision en 1872 de la Cour d'appel de Chambéry qui va un petit peu jeter le trouble dans toute la jurisprudence jusqu'à présent, puisque la Cour d'appel de Chambéry revient en arrière de la décision de l'arrêt Boisbœuf en disant « oui, non, on renvoie le couple devant la juridiction civile pour le divorce », alors qu'on était face à des violences concrètes. On est dans à Chambéry, on est dans la Savoie, c'est un retour à l'ordre moral, donc on sait très bien qu'à la fin des années 70, c'est un petit peu tendu, et les magistrats font face à ça. Bon, heureusement, la décision est restée tout à fait isolée, mais n'empêche que régulièrement, il faudra réaffirmer ça. La question de l'oppression du code et la revendication de droit, elle existe, et les magistrats en ont bien conscience. Et au moment du centenaire, justement, du code civil, c'est sous la colonne Vendôme que les femmes demanderont l'abrogation du fameux article 213 qui asservit la femme à son épouse, et qui revendiquera finalement tous les mouvements féministes revendiqueront un petit peu plus de liberté. Mais entre les revendications politiques de cette liberté et ce qui se passe concrètement, il y a un gouffre en fait. Et il y a un gouffre parce que finalement, les femmes qui sont battues sont loin de ces discours-là finalement. Et c'est pas encore entré dans leur schéma de pensée, dans leur culture à elles. Elles en sont encore à dire non, c'est ma faute. Et donc tout ça procède un petit peu d'éducation et de rapport finalement de ce qu'elles sont elles vis-à-vis de la société et de ce que la société pourrait leur apporter. Jusque dans les années 1960-70, la femme ne peut pas travailler, ne peut pas percevoir les fruits de son travail. Donc c'est très très long. L'abrogation de l'article 213, c'est 1938, mais il maintient quand même l'autorité du mari. C'est quand même énorme. Et il faut 1970 pour que ce fameux article disparaisse et que les époux concourent ensemble à la communauté du mariage. Donc tout ça est très très long, c'est des mentalités à changer. Et puis j'évoquais au tout début la question du viol conjugal. Le viol conjugal, c'est la loi de 1980. Pendant très longtemps, y compris chez des juristes de renom, c'est pas possible que dans un couple, le mari viole sa femme. C'est rigoureusement impossible. Et il faudra attendre les décisions de la Cour de cassation de 1990 pour réaffirmer le fait que, oui, le viol conjugal existe dans un couple marié. Donc tout ceci est très long et tout ceci nécessite à chaque fois de réaffirmer des positions qu'on oublie parce que justement, les individus, finalement, les acteurs, n'en sont pas là, tout simplement.
Oui, j'ajoute, parce que ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on vient d'entendre, c'est que l'essence du code civil, c'est le fait que l'homme, et en particulier le mari, est propriétaire de son épouse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de féminicide, on met en avant le fait qu'il s'agit d'un crime de propriétaire. Parce que il faut comprendre que les femmes qui se sont beaucoup battues dans la Révolution française, bien sûr pour les principes de la Révolution, mais aussi parce que à chaque révolution, les femmes pensent que la Révolution va permettre aussi de faire avancer leurs droits en tant que peuple de femmes, puisque c'est ça dont il s'agit. Pour la première fois dans l'histoire de France, il y a un peuple de femmes qui se pense en tant que tel pendant la Révolution. Et on voit évidemment à quoi cela a conduit, puisqu'elles ont été en même temps exclues quasiment dès le début de la Révolution des droits politiques. Et puis, en 1795, certes, il y a un tournant un peu conservateur, évidemment, dans la Révolution, mais en 1795, par exemple, un décret de la Convention nationale interdit dans l'espace public les regroupements de plus de 5 femmes. Plus de 5 femmes, c'est une émeute. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'obliger les femmes à faire retour vers l'espace domestique, vers l'espace privé, qu'elles avaient quitté avec fracas, évidemment, dès la prise de la Bastille, évidemment en 89. Donc il y a évidemment cette volonté très claire de renvoyer les femmes dans l'espace privé. Et puis il y a évidemment ce code Napoléon qui va légitimer évidemment l'infériorité juridique des femmes, ce qui fait que les femmes sont considérées comme des mineures à vie et qu'elles sont inscrites dans la même catégorie que les enfants et les fous. Voilà, c'est ça en fait la France du 19e siècle aussi qui émerge de la Révolution française, c'est-à-dire un système d'assujettissement des femmes tellement violent que l'on parle évidemment pour le désigner d'absolutisme marital. Hein, donc,
ce code Napoléon, 1804 pour le code civil, 1810 pour le code pénal, vit très bien après Napoléon, tout le 19e siècle, le 20e siècle encore. C'est ça qui est fascinant, hein, c'est de voir que tout ce qui se met en place au moment que vous décrivez, Christelle Tarot, continue avec ces notions complexes de viol conjugal et de crime passionnel. Alors ça, faut nous expliquer, Victoria Vano, ça n'existe pas dans les textes.
Non, le crime passionnel est une invention médiatique de la fin du 19e siècle pour désigner ce qui se produisait dans les cours d'assises. C'est-à-dire que la cour d'assises à la fin du 19e siècle subit comme ça une vague complète d'acquittement dans les crimes dits de passion. Alors c'est un crime qui se joue un peu à trois, c'est-à-dire qu'on a le mari, la femme et l'amant, la maîtresse. Et généralement, c'est un peu la même phrase, c'est « si tu me quittes, je te tue et je me tue ». Et ça, c'est très évidemment, il n'y a pas de valeur juridique à ça. Et beaucoup de magistrats déplorent cet état des choses. Et c'est un argument de la défense. Alors progressivement, évidemment, ce crime dit de l'amour, de la vengeance, parce que il est commis d'ailleurs autant par les femmes que par les hommes. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est du coup de sang. C'est-à-dire vraiment, je supporte pas que tu ailles vers quelqu'un d'autre. Va progressivement se transformer en, pour dire désigner notamment au XXe siècle un peu les violences conjugales, et on va un petit peu mélanger tout ça. Et la bascule, c'est un peu l'affaire Bertrand Cantat, Marie Trintignant, où là, l'expression crime passionnel, on n'en veut plus, on ne veut plus entendre parler de ça quand on parle des violences commises au sein d'un couple, parce que c'est pas de l'amour de frapper quelqu'un, il n'y a rien de passionnel là-dedans. Et là, à ce moment-là, l'expression va commencer à totalement disparaître, pour vraiment plus imposer dans le débat public la question des violences conjugales qui est apparue dans les années 70 mais qui finalement était un peu éclipsée par les arguments de la défense en disant mais c'était un coup de sang, ouais, c'est un crime passionnel. Non, là c'est vraiment ce moment de bascule très intéressant. Et si j'ai juste pour réagir aux propos de Christelle tout à l'heure, justement effectivement par rapport au code Napoléon, c'est vrai que c'est un code qui a servi la femme, mais c'est aussi, il ne faut pas oublier que le code Napoléon, il est héritier du droit romain, et dans le droit romain effectivement la femme était propriété du mari, tout comme les meubles, les enfants, les esclaves, etc. Donc effectivement on est encore cet état d'esprit-là au moment de la codification. Et puis il y a cette phrase célèbre de Napoléon au moment de la codification, on dit que non, mesdames, vous n'irez pas à la Comédie française, vous m'appartenez, corps et âme. Donc, ça, c'est ce qui finalement caractérise le code civil.
Ce qui fait frémir, hein, c'est de voir que les basculements récents, c'est hier, quoi, c'est les années 60, 70, sur cette très longue histoire, une longue histoire, et nous saisissons combien il faut prendre en compte l'ensemble de la société avec cette lente mais efficace sexualisation des femmes.
Pour que je finisse mon service, autant qu'un je suis parti. À quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes. Elles sont belles et fidèles, et je suis devenu le chéri d'une petite femme du pays qui s'appelle Mélaoli. Je suis gobé d'une petite, c'est une Anna, une anamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Il y en a d'autres qui me font les douze yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux.
La petite tonkinoise, enfin, le Vincent Scotto, hein, créée en 1906 par Paulin, mais là c'était chanté par Jacques Lantier. Elle s'appelle quand même Mella Oli, la petite tonkinoise. Christelle Tarot, vous êtes spécialiste, hein, de ces sexualités en contexte colonial. Vous avez écrit et dirigé avec Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Gilles Gouetch et Dominique Thomas à la découverte Sexe, race et colonie et d'autres ouvrages autour du sujet. La sexualisation du corps féminin participe de cette histoire, réduire les femmes à un corps désirable.
Oui, l'accaparement du corps des femmes, c'est très ancien. C'est probablement l'un des premiers dispositifs de contrôle de l'histoire de l'humanité. Dans le livre, on remonte à cet accaparement, remonte quasiment à la préhistoire. Mais si on prend les contextes coloniaux, même contemporains, on voit en réalité que c'est un élément tout à fait fondamental. Parce que les femmes ne sont pas seulement des individus, ce sont des territoires. Ça, c'est très ancien. Et d'ailleurs, on peut sans doute imaginer à juste titre, c'est d'ailleurs pas seulement une imagination, c'est documenté, y compris par mes propres travaux, que la femme a probablement été la première colonie de peuplement de l'histoire de l'humanité. Puisque les femmes, encore une fois, sont des territoires. Ce ne sont pas seulement des individus ou des corps individuels. Mais l'accaparement est essentiel, et la sexualisation aussi. Dans les contextes coloniaux contemporains, ceux de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, on peut dire effectivement que la place des femmes est centrale, d'abord parce qu'elle marque la prise de possession d'un territoire. Lorsqu'on veut faire comprendre aux hommes qu'on les a vaincus militairement, l'une des manières les plus terribles d'acter ça, c'est d'accaparer le corps de leur femme, de s'installer dans le sexe de leur femme et de faire des enfants dans le ventre de leur femme. Et donc on voit bien à quel point, évidemment, la masculinité hégémonique est une conversation entre systèmes patriarcaux différents, hein, des basses intensités, ceux qui sont vaincus, des hautes intensités, les vainqueurs, hein, d'une certaine manière. Et puis, il y a évidemment tout le versant des représentations, des imaginaires, et on sait que les femmes ont été en France depuis, la traduction des Mille et une nuits par Antoine Galland, ont été une boîte à fantasmes extraordinaire. Et il suffit, par exemple, de lire, les Lettres d'Égypte de Flaubert pour se rendre compte à quel point l'accaparement des corps et la sexualisation des femmes, voire des petites filles, est un élément fondamental, en fait, du rapport à l'autre, du rapport à l'altérité. Donc cet accaparement est essentiel. Il traverse toute la seconde partie de Féminicide, une histoire mondiale, puisqu'il questionne la question des féminicides dans les contextes d'esclavisation et de colonisation. On pourrait dire d'ailleurs que les deux choses sont liées, bien évidemment. Je n'ai pas le temps de développer cette question très complexe maintenant, mais effectivement, qu'on soit dans une plantation esclavagiste de la première colonisation, prenons la Jamaïque au XVIIe siècle, ou qu'on soit dans un camp d'otages du XIXe siècle dans le bassin du Congo, lieu très important de la violence coloniale du fait d'énormes ressources, en particulier par exemple le caoutchouc, eh bien on voit que l'accaparement du corps des femmes, de la sexualité des femmes est absolument un élément massif des systèmes de domination et des régimes de force qui s'imposent évidemment dans ces contextes qui sont en même temps très différents historiquement, ce sont des sociétés différentes, mais il y a quand même une linéarité en fait de cette question.
L'accaparement en contexte colonial et pas seulement, et la propriété, c'est sacré, ça, c'est le 19e siècle. Victoria Vanon, on peut lire en fait cette histoire de la domination faite sur les femmes par cette idée de propriété. Hein. Ce sont des magistrats, vous l'avez dit, des notables, des bourgeois, la propriété, c'est sacré. Et voilà, il y a cette idée de propriété du mari sur son épouse.
Ah bah oui, c'est un peu ce que laissaient sous-entendre les articles 213 et 214 du Code civil. Quand les épouses mariaient, c'était, la femme doit obéir, ça doit habiter avec son mari. Et c'est clair que la propriété, c'est le cœur du Code civil. D'ailleurs, le Code civil est pensé pour les bourgeois. Hein. Qui se marient, ce sont ceux qui ont de l'argent, qui peuvent faire des contrats. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, on ne trouve pas trace, en tout cas, des violences perpétrées au sein de couple un petit peu plus bourgeois, parce que ça va être, c'est difficile, les femmes ne se plaignent pas, et on assiste, à mon avis, à des violences plus psychologiques, économiques, parce qu'une femme qui est dépendante économiquement de son mari ne va pas le quitter. Mais c'est des thématiques qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est comme un invariant un petit peu anthropologique sur ces questions-là.
Ce sont des pistes de réflexion que vous nous avez offertes, l'une et l'autre, Victoria Vanno. Je ne l'ai pas précisé, vous êtes associée au CNRS, l'Université de Nanterre, et il y a La paix des ménages, histoire des violences conjugales du 19e siècle au 21e siècle. C'est publié chez Anna Moza. Et vous, Christelle Tarot, rattachée au Centre d'histoire du 19e siècle de l'Université Paris 1 Sorbonne et aux universités Columbia et New York University, Féminicide, une histoire mondiale que vous dirigez à la découverte. J'ai dit juste des pistes de réflexion, parce que nous sentons combien c'est l'ensemble de la société à prendre en compte, et surtout des regards autres pour penser ces différents présents, ces présents du passé. Merci vivement à toutes les deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment.
Pourquoi broder la vie des saints sur la tunique des prêtres ? À l'époque où le peuple français était surtout composé de paysans qui ne savaient ni lire ni écrire, les élites utilisaient des moyens symboliques pour transmettre leur vision du monde à ceux d'en bas. C'était la fonction principale du décor architectural sculpté qu'on peut encore admirer sur les façades des églises et des cathédrales. Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'évoquerai un autre support de cette communication religieuse qui concerne les images brodées qu'on appelle des orfrois. Sur une toile de lin, le travail de broderie était réalisé en fil de soie, polychrome, bleu, blanc et vert, en fil de laine ou en fil de lin tissé avec des filets d'argent. Les orfrois étaient brodés sur les vêtements des prêtres, comme la chape, la chasuble ou la tunique, de façon à conforter dans l'esprit des fidèles la croyance dans le caractère sacré de la fonction religieuse. À cette dimension symbolique s'ajoutait le rôle didactique des orfrois, car les broderies représentaient souvent des scènes religieuses évoquant les saints, les martyrs ou les évêques mentionnés dans la Bible. L'un des gros problèmes qu'ont rencontré les spécialistes de cette question concerne la date de leur fabrication. Sur l'une des séries de ces broderies conservées au musée de Bretagne, on trouve des documents imprimés portant le sceau d'Henri IV. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, cet indice oriente vers une fausse piste, car ces papiers imprimés servaient à consolider des broderies tissées longtemps auparavant, mais qui avaient été insérées ultérieurement dans un cadre fixe, à une époque où les orfrois étaient mis en scène sous des auvents architecturaux, à l'instar des représentations sculptées dans les églises. La présence d'un document mentionnant le sceau d'Henri IV nous renseigne donc sur la réutilisation ultérieure des orfrois et non sur leur date de fabrication. Les orfrois conservés aujourd'hui au musée de Bretagne ne font plus partie des vêtements auxquels ils étaient destinés au départ. Pour savoir de quand datent réellement ces broderies, il faut recourir à des sources manuscrites. En ce qui concerne la Bretagne, on trouve des mentions concernant des brodeurs professionnels travaillant en ville et près des cathédrales dès les 14e-15e siècles. Au cours des siècles suivants, les ateliers se sont multipliés, car le commerce de ces images chrétiennes s'est largement développé. Les archives qui ont conservé la comptabilité des marchands et des artisans montrent comment la vente de ces images venait compléter le commerce des épices, des matières précieuses et autres merceries. Ces marchands, qui étaient souvent eux-mêmes des artisans, ont ainsi diffusé leur savoir et leur art partout où le travail de fil était requis, depuis les villes où s'élançaient les cathédrales jusqu'aux petites églises rurales. L'étude de ces orfrois nous renseigne donc sur une longue période qui s'étend du XIIIe au XVIIe siècle, au cours de laquelle ces images brodées circulèrent dans toute l'Europe. C'est un facteur important qu'il faut prendre en compte quand on veut comprendre le rôle qu'ont joué ces commerçants et artisans dans l'extension des moyens symboliques de communication au service du pouvoir religieux.
Merci beaucoup Gérard Noiriel pour ce pourquoi du comment et merci à toute l'équipe, Jeanne Delecroix, Antoscan Vudès, Jeanne Copet, Violette Ruiz et Maïwenn Guizou qui ont préparé le cours de l'histoire sur France Culture, une émission à retrouver avec toutes les précédentes en podcast sur notre site franceculture.fr ou l'application Radio France.